Alors, on aurait pu évoquer la mort d'al-Baghdadi, le calife de l'État islamique ce matin, mais comme à peu près tous les médias en parlent depuis hier, vous avez préféré venir nous parler de la situation explosive au Chili, elle aussi très relayée dans les médias, mais sur laquelle vous allez apporter votre éclairage personnel. On a tous vu ces images de manifestations monstres dans les rues de Santiago sur nos écrans, avec en corollaire cette répression féroce qui a entraîné la mort de 15 personnes. Au moins, le pouvoir chilien semble désemparé. Comment on en est arrivé là? Quelles sont les raisons de la discorde?
Le Chili a eu besoin de temps pour redémarrer après la fin de la dictature de Pinochet. Et le résultat, c'est une société qui, en apparence, était pacifié, qui a souvent même été cité comme une sorte de modèle, mais c'est une société très inégalitaire avec un taux de chômage élevé. Donc, un environnement fragile qui est susceptible d'exploser à la moindre occasion. Et les manifestations ont débuté il y a bientôt 10 jours pour dénoncer une hausse de prix du ticket de métro. La mesure a été pourtant tout de suite suspendue par le chef de l'État, mais les émeutes se sont poursuivies, nourries par la colère face à la situation socio-économique et surtout, je le répète, aux inégalités. On ne peut éviter un rapprochement avec la situation initiale, la colère initiale des Gilets jaunes en France il y a bientôt un an. Dans ce pays de 18 millions d'habitants, l'accès à la santé et à l'éducation relève presque uniquement du secteur privé. Et un manifestant a très clairement indiqué, interviewé à la radio, que ce qui se passe n'est pas lié à la hausse de 30 pesos du prix du métro, mais à la situation depuis 30 ans. Il y a les retraites, les queues au dispensaire, les listes d'attente à l'hôpital, le prix des médicaments, les bas salaires. Après d'importantes manifestations qui s'étaient déroulées globalement dans le calme, lundi dernier à Santiago, des incendies et des pillages se sont encore produits pendant la nuit.
Et comment le pouvoir réagit-il à cette situation qui s'enlise, qui perdure?
Le président a proposé des mesures sociales afin de mettre la fin à plusieurs jours de troubles. Le bilan des morts, des violences, des incendies est lourd et grave. Et selon le parquet, 4 personnes ont été tuées par des tirs des forces de l'ordre et 11 sont mortes dans des incendies et des pillages. Alors le chef de l'État, et c'est étonnant, a reconnu ne pas avoir anticipé l'explosion sociale. Je reconnais ce manque de vision et je demande pardon à mes compatriotes. C'est rare. Un changement de ton spectaculaire de la part d'un homme qui considérait peu avant que le Chili était en guerre contre un ennemi puissant. Il a quand même pris une sorte de virage social, notamment avec l'augmentation de 20% du minimum retraite et du gel des tarifs de l'électricité. Alors, selon le ministre de l'Intérieur, qui joue son rôle de pare-feu, le président a écouté avec beaucoup d'attention les différentes propositions et va s'adresser au pays pour proposer un programme social. Alors, quelques partis d'opposition ont participé aux discussions, mais le plus important, le plus grand, le Parti socialiste et d'ailleurs d'autres formations de gauche refusent parce qu'ils pensent que le dialogue est certes indispensable et urgent, mais cela doit être un dialogue ouvert. Et on pense que l'appel du président ne remplit pas ses conditions. Alors, les manifestations ont continué avec des milliers de contestataires rassemblés dans plusieurs endroits de la capitale, qui est sous la pression de quelques 20 000 policiers et soldats qui sont déployés sur tout le territoire parce qu'il y a un état d'urgence. Et c'est une des causes aussi de la colère. Et la grande centrale syndicale des travailleurs ainsi que d'autres organisations ont appelé à des grèves et encore des manifestations. Pourtant, un petit progrès. De nombreux commerces qui étaient fermés lundi dernier ont réouvert. Mais il y a des longues files d'attente partout, aux arrêts d'autobus, devant les supermarchés, parce que tout n'est pas approvisionné. Le métro, qui transporte quotidiennement quelques 3 millions de personnes à Santiago, est resté fermé parce que 78 stations et des dégâts ont été commis qui empêchent sa réouverture. Les cours ont été d'abord suspendus dans la quasi-totalité des écoles et des universités de la capitale, mais les hôpitaux fonctionnent à peu près normalement. Des dizaines de milliers de personnes ont une nouvelle fois manifesté à la fin de la semaine contre les inégalités sociales au Chili et l'ONU a décidé d'envoyer une mission pour enquêter et, paradoxe des paradoxes, La chef de cette mission n'est autre que Madame Bachelet, deux fois présidente du Chili, qui elle s'inscrivait dans la ligne, à peu près, d'Allende. Alors, le président conservateur, lui-même très riche, a trouvé à la porte à une levée, pas suppression totale, mais une levée des mesures d'exception en disant que il travaillait avec son gouvernement à une normalisation de la vie du pays pour pouvoir cesser le recours au couvre-feu et, nous l'espérons, dit-il, lever l'état d'urgence.
Alors, très rapidement, parce qu'il nous reste un peu plus d'une minute, là, vers quoi se dirige-t-on selon vous? Quelle sortie de crise est envisageable pour le gouvernement chilien?
La seule sortie de crise, elle est double. C'est d'une part arriver réellement à mettre autour de la table l'ensemble des partenaires sociaux, plus que les politiques, et d'autre part, annoncer et mettre en œuvre des mesures fortes dans un environnement apaisé, sans force de police partout.
Merci Daniel Cabanis de nous avoir proposé votre regard et vos analyses sur la crise que traverse le Chili actuellement, encore un pays d'Amérique du Sud en proie à de graves perturbations internes. On sait aussi qu'au Venezuela, ça se passe très mal depuis plusieurs mois. On vous retrouve bien sûr lundi prochain à la même heure avec Isabelle Honnel cette fois-ci.